Nous poursuivons notre série consacrée à l'avant-présidentiel avec aujourd'hui dans le dossier du 12-14 un nouveau portrait de la France. C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Aube. Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous partez du constat que le temps de non-travail est désormais à part égale, sinon plus d'ailleurs parfois, avec le temps de travail. Cela change quoi dans la vie ?
Vous savez, la vie a augmenté de 40% au XXe siècle. Et en gros, la durée du travail, on travaillait 200 000 heures en 1900. Aujourd'hui, pour avoir droit à la retraite, il faut avoir travaillé à peu près 67 000 heures. Donc ça veut dire que le nombre d'heures travaillées a été divisé par 3. L'espérance de vie a augmenté de 40%. Ce qui veut dire au fond qu'un homme de 1900, il travaillait 40% de sa vie sur Terre. Comme il dormait 30%, il ne lui restait pas grand-chose. Nous, on travaille 10% de notre vie sur Terre. On dort toujours à peu près 8 heures par jour. Et donc quand on a fini de dormir et de travailler, au fond, il nous reste 400 000 heures de temps libre.
Et, ça change tout.
Ça change tout, parce que si vous voulez, ça veut dire qu'en masse, avant il y avait 100 000 heures de temps libre, 200 000 heures de travail, nous on a 400 000 heures de temps où on ne travaille pas, et disons 67, voire 100 000 heures de travail avec les heures sup, etc. Donc l'équilibre des vases a changé. Et surtout, si vous voulez, ça veut dire que la société se structure entre ces deux moments. Parce que le temps où on ne travaille pas, c'est le temps où on se régénère, c'est le temps où on apprend. Qu'est-ce que vaudrait un salarié qui n'aurait pas regardé la télé depuis 2 ans, ne serait jamais parti en vacances, etc. Il serait complètement décalé. Il ne faut pas dire que le temps de non-travail, c'est le temps où on ne fait rien.
Parce que vous dites que à l'époque, enfin, avant, jadis, c'est le travail qui structurait la vie. On s'installait près de son usine, dans la ville où on travaillait, le paysan
60,
vivait dans son village.
Jusqu'aux années 60, le postier posait la postière, l'ouvrier les quartiers rouges qu'on connaissait près des villes, les quartiers ruraux. Et tout ça s'est défait parce qu'on est devenu, dans ce temps qu'on a, on fait d'abord une première chose, c'est qu'on se déplace énormément. Vous vous rendez compte qu'en France, on faisait 5 km par jour et par Français jusqu'aux années 70 et qu'on est passé à 45 km aujourd'hui. Et je parle que des kilomètres physiques, si je rajoutais les kilomètres virtuels. Donc ça veut dire que la société est une société qui bouge en permanence. On change d'employeur tous les 11 ans, de couple tous les 8-10 ans, on déménage tous les 10 ans. Donc, on est une société où la moyenne est très mobile. Il y a des poches de non-mobilité absolue. Il y a des ghettos, il y a des quartiers pauvres, que c'est un vrai scandale. Donc il y a des poches négatives, bien sûr. Mais en gros, 80-70% des gens sont pris dans ce brassage. Et en plus, 75% des gens disent qu'ils sont heureux de ce mode de vie. Donc je crois qu'il faut comprendre ce changement social pour trouver de nouvelles façons de réguler cette société et de protéger les plus faibles.
Alors voilà, j'en viens à la politique. Quel lien avec la politique ? Vous venez de le dire, pour réguler la société et peut-être aussi dans la fidélité politique, ça change les choses ?
Mais tout est discontinu dans le monde moderne. Si vous voulez, quand la vie est beaucoup plus longue, je vais donner un chiffre qui fait toujours rire, mais on fait en moyenne 6000 fois l'amour. Nos grands-parents faisaient 1000 fois l'amour pour faire 10 enfants.
1000 à l'époque.
1000, hein, voilà. Pour faire 10 enfants. Donc on faisait vraiment l'amour pour faire un bébé. Nous, on fait 3000 fois l'amour pour faire un bébé. Il est bien clair que c'est la même activité, mais c'est plus du tout le même objectif.
Oui, votre livre, vous mettez avec humour, la productivité n'est plus ce qu'elle était.
Elle s'est effondrée. Mais pourquoi je donne ce chiffre ? Parce que si vous laissez pour dire que les choses ont l'air d'être pareilles, et en fait, elles ne sont pas pareilles. Derrière ce changement de chiffre, on comprend toute la place donnée à l'érotisme dans nos sociétés, la transformation de la vie des couples, etc. Et donc, je prends cet exemple. On pourrait prendre la même chose sur les employeurs. En moyenne, la durée d'un CDI en France, c'est 11 ans et 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on est dans une société de discontinuité et on continue à la gérer avec des cadres des sociétés stables, où le but, c'était de protéger les gens tout le temps. Donc, j'ai un boulot, je ne vais pas en changer. L'idée, c'est que je reste. Aujourd'hui même, les jeunes, quand ils sortent d'une école, on lui dit « essaye plusieurs patrons ». Alors ce qui est vrai, c'est que le jeune de banlieue qui a une mauvaise formation, lui aussi, il va essayer beaucoup de patrons, il ne l'a pas choisi. Alors que celui qui sort de l'ENA, on va lui dire « non, tu fais 2, 3 mois, 6 mois dans chaque boîte et tu changes ». Donc la discontinuité est devenue la règle, mais il y en a qui la subissent et il y en a qui la choisissent. Et la grande question politique de notre société, c'est comment on comprend ce mouvement, cette dialectique entre temps libre et travail, et comment on invente des règles de protection pour ces ruptures. Prenez un exemple précis, les femmes seules avec enfants. On va dire le marché de l'occasion du mariage, pour le dire comme ça avec une formule provocatrice. On divorce de plus en plus, donc il y a 1,5 million de femmes seules qui se retrouvent toutes seules avec 2 enfants, 1 ou 2 enfants. Elles habitent, sont concentrées dans les quartiers populaires les plus défavorisés. Des fois, il y a 30 à 40% des logements dans ce qu'on appelle les quartiers où il y a une femme seule avec enfants. Quelle est la politique pour cette transformation de la vie des couples ? Rien. Ces femmes courent à droite, à gauche, ont des emplois discontinus, etc. C'est-à-dire, il y a une somme de niches de misère à l'intérieur de cette société. Et comme, si vous voulez, on ne comprend pas bien le mouvement de la société, on essaye de restaurer, on dit, le modèle social français est terminé. Pas du tout, il y a 46% de transferts sociaux. On peut régénérer l'école, on peut régénérer la santé. Mais enfin, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, etc. On dit, la France est envahie par des immigrés, mais moins qu'avant 14. Donc là, on se construit des grandes peurs parce qu'on ne comprend pas bien notre changement social et donc on ne sait pas bien élaborer des règles politiques nouvelles.
Mais c'est étonnant, c'est-à-dire que les hommes politiques, la classe politique est en retard d'une époque. Vous écrivez, on pense et on agit la société avec une vision issue du monde d'hier. J'étais frappé en lisant cette phrase. C'est-à-dire que les hommes politiques n'ont pas de vision de ce qui se passe aujourd'hui.
Il n'y a pas que les hommes politiques. On a tous tendance à regarder le monde avec ce qu'on a appris quand on était jeune. Or nous, regardez quand on était jeune, moi je suis de la génération 68, il y avait le communisme en Europe, il y avait des dictatures en Amérique latine, il n'y avait pas de réchauffement climatique, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable, etc. Il n'y avait pas la pilule. Bon. Et pour prendre encore un autre champ de la vie intime. Et d'un coup, tout ça est arrivé en même temps, en une seule génération. Et forcément, ça, c'est difficile de penser tout ça en même temps. J'en veux pas aux hommes politiques. Je veux dire que c'est souvent les intellectuels aussi qui font pas leur travail de défricheurs ou les journalistes qui passent... Dès qu'il y a un meurtre, tout le monde en parle. Mais quand il y a effectivement une innovation technologique, on en parle peut-être moins. Donc c'est pour dire que c'est tout le monde qui, au fond, ça change tellement vite qu'on a peur. Et donc, du coup, on pense qu'on vivait mieux hier et qu'on vivra moins bien demain. C'est quand même absurdité. On gagne 3 heures d'espérance de vie par jour en France. Les femmes font à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent. Pour moi, c'est deux indicateurs d'une société qui ne va pas si mal. Et donc, je crois qu'il faut plus regarder. C'est aussi aux intellectuels de faire leur boulot. Il y en a qui le font, d'expliquer. C'est aussi aux politiques, effectivement. Vous voyez, par en ce moment, on parle beaucoup évidemment de cette crise épouvantable et de l'augmentation du chômage. Bon, l'industrie, c'est très important. C'est 17 à 18% de l'emploi. Donc c'est important, mais c'est un salarié sur 5. Donc bien sûr qu'il faut recommencer, y compris se demander pourquoi les entreprises françaises, comme Peugeot et Renault, perdent des parts de marché. Ce n'est pas les Japonais, ce n'est pas les Chinois qui font ce qu'ils ne sont pas bons. Et pourquoi ils ne sont pas bons ? C'est pour aussi se poser ces questions, parce que ce n'est pas que les étrangers qui nous envahissent. Hein. Et donc, mais seulement, ce n'est qu'une partie. Le marché de la formation des hommes est un enjeu majeur. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend une directive totalement insensée pour interdire aux étudiants de travailler en France. Si on ne comprend pas que le marché du savoir, le marché de la santé sont des marchés mondiaux considérables, aussi importants que les objets, il faut se battre sur les objets, attendez. Mais oui, je dis un emploi sur 5.
Est-ce que ça veut dire que les candidats à la présidentielle, par exemple, doivent mettre, Jean Viard, je rappelle que vous avez écrit « Nouveau portrait de la France » aux éditions de l'Aube. Est-ce que ça veut dire que les candidats à la présidentielle doivent mettre le temps au cœur de la campagne, au même titre que l'emploi, la jeunesse,
vous savez,
l'éducation, la santé ?
Bien sûr, parce que la politique a toujours été bâtie sur l'espace, depuis les traités de Westphalie, depuis toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, les États, ils cherchent à s'agrandir, à déplacer des frontières, etc. Nous, par exemple, si on allait occuper la Belgique parce qu'elle est en crise, on serait d'abord totalement ridicule. Ridicule au-delà du fait, ce serait pas possible. Pourquoi ? Parce que l'espace aujourd'hui, la Terre, elle est une. Elle est petite, sans doute un peu trop petite pour nos pressions écologiques, même certainement un peu trop petite. Par contre, le temps, c'est la grande bataille du monde moderne. La vie a augmenté de 40%. On se préoccupe de la vie des générations futures. On vous dit toujours, avec le réchauffement climatique, dans 2-3 générations, c'est tout à fait nouveau, cette présence du temps.
Donc les 35 heures des socialistes, tant décriées aujourd'hui, vous avez l'air de dire, c'était pas mal.
Non, mais les 35 heures, c'était une excellente réforme féministe. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la durée moyenne du travail des couples en Europe, le modèle, c'est qui travaille dans le couple. Vous pouvez donner des heures supplémentaires, comme on fait en ce moment. Qui les tient ? Des messieurs. Essentiellement, on redonne le revenu financier d'abord aux hommes. Si on veut des sociétés où on fait 2 bébés par ménage et où effectivement les femmes ont une indépendance économique, les 35 heures étaient une bonne réforme. Peut-être pas de la manière dont elles ont été faites, etc. Je ne vais pas les défendre entier. Comprenons que la réduction du temps de travail, l'augmentation de ce qui renouvelle la productivité, qui est à côté du travail, c'est ça qui nous augmentera notre richesse commune.
J'ai plusieurs questions d'auditeurs par SMS 629. Non, mais je vous en prie, Jean-Vierre, ils vous écoutent avec intérêt. Les Français sont-ils atteints de prudence chronique, nous demande Jean-Yves.
Non, ils sont atteints de dépression très forte.
Et de pessimisme. Et oui, je vous poserai la question, voilà, comment redonner confiance, justement ?
On est le pays le plus pessimiste de la planète. Ouais. C'est quand même terrible. Alors, il y a des pays tellement pauvres que les mecs, ils peuvent être qu'optimistes. Quand vous êtes au Nigeria ou quand vous êtes en Afghanistan, ça peut que monter. Parce que sinon, alors, vous vous jetez carrément sous un train tout de suite. Donc, je veux dire que c'est des pays très, très pauvres qui ont de l'espérance. Mais l'Asie est en pleine espérance. Ce qui se passe en Asie est fantastique. D'accord, ça nous pose des problèmes. Ben, là, il y a 2 milliards d'hommes qui sont en train de sortir de la pauvreté. Donc, il faut comprendre ça. Et nous, on est un pays qui marche bien, où 75% des gens sont contents, où il y a 25% des gens en grande difficulté, mais surtout où on n'a plus de projet commun. On n'a plus aucun projet commun. On ne fait que de la comptabilité publique. On discute du AAA, on discute de la RGPP, on discute un fonctionnaire sur 2, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires, mais je ne dis pas de ça du tout. Mais ce n'est pas 1 sur 2. Dans la police, il en manque. Dans l'administration d'État, il y en a trop. On pourrait supprimer les préfectures, on pourrait supprimer les consulats. Il y a des milliers d'endroits où on pourrait supprimer tous ces fonctionnaires.
Pourquoi
on a décentralisé.
Pas à la présidentielle, quoi ? Pourquoi vous n'êtes pas candidat ?
Non, mais il faut en supprimer à certains endroits.
Vous
il y a
dites des
au
choses
moins
de bon
150
sens.
000 fonctionnaires à supprimer dans l'État des provinces, puisqu'on a donné des régions, etc. Et par contre, il faut mettre des policiers et des enseignants. Non, arrêtez de gérer la société par les mathématiques, parce qu'on n'a plus d'image du futur. Et donc, ce qu'il faut, c'est réenchanter le futur. Oui, le monde demain, il y aura de nouveaux enjeux. La guerre contre le réchauffement climatique, la montée du niveau de l'eau, etc., bien entendu. Mais il est clair en même temps qu'on a des moyens extraordinaires. Et que si vous voulez, si on ne donne pas confiance aux gens, et bien à ce moment-là, ils deviennent incapables de réformer l'école, de réformer les hôpitaux, parce qu'effectivement, juste un chiffre que j'adore, c'est le nombre de meurtres en France. Depuis la suppression de la peine de mort, il a été divisé par plus de deux. Ça veut dire que quand l'État ne se donne plus le droit de tuer, dans la rue non plus, alors bien sûr, chaque fois qu'il y a un meurtre, l'année dernière, on a eu 7 ou 800, ça va passer au poste, c'est un meurtre est horrible. Mais si on dit, oui, d'accord, mais en 30 ans, ça a diminué par deux, eh bien, on se rend compte qu'il y a une relation entre les politiques publiques de rapport à la violence et la violence des individus.
Merci Jean Viard. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, le livre s'appelle « Nouveau portrait de la France » aux éditions de l'Aube. Et je crois que vous avez écrit un article dans Polka Magazine de ce mois-ci. Merci beaucoup Jean Viard.